Avant tout, c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de participer à cette conférence à Lyon. Moi, je vais faire mon discours au nom de notre frère Harun Yahya. Comme vous savez, il est un auteur turc. Et il est connu dans son propre pays, la Turquie, et aussi à travers le monde entier, avec Parsez Trovaux, sur les fondements de la théorie de l'évolution, sur la science et sur les foi sincères en Allah. Et aussi Harun Yahya présente ses meilleurs voeux et respects à vous, à tous nos invités distingués présents aujourd'hui. On va faire une vidéoconférence avec lui à peu près à 22h, Inch'Allah. Oui, le sujet aujourd'hui, le premier sujet, c'est les miracles du Coran. Il y a 14 siècles, une écriture sainte a été envoyée à l'humanité, le Saint-Coran. Depuis le jour de sa révélation jusqu'au jour du jugement, il restera le seul et dernier guide pour les musulmans et pour toute l'humanité. Il y a d'innombrables preuves indiquant que le Coran est la parole d'Allah. Par exemple, ses qualités littéraires qu'aucun être humain ne peut imiter, le fait qu'il n'y ait aucune incohérence, qu'il prédise le futur et le fait qu'il contient certaines informations cachées, qu'il contient de nombreuses vérités scientifiques. Bien sûr, le Coran n'est pas un ouvrage scientifique. Mais cependant, de nombreux faits scientifiques qui sont exprimés dans ces versets ont été découverts au moyen de la technologie du XXe siècle. Par exemple, les hommes de la période où le Coran fut révélé étaient dépourvus de science. Les gens croyaient aux superstitions et aux mythes. Je demande la protection d'Allah concernant le Wali. Allah est celui qui a élevé les cieux sans pilier visible. Le Coran contient des informations sur de nombreux sujets, de la création de l'homme, de la création de l'univers, ou jusqu'à la formation de l'homme, ou des équilibres sur Terre, aux prédictions historiques qui auraient lieu dans le futur. Commençons maintenant à examiner de certains miracles. La formation de l'univers. Au début du XXe siècle, le point de vue prédominant à travers le monde était celui que l'univers était infini. Selon de ce point de vue, qui est connu sous le nom de modèle d'univers statique, l'univers n'a pas de fin ni de commencement. Cette prédominance a duré jusqu'à l'apparition d'une preuve validant la théorie du Big Bang. Aujourd'hui, à l'encontre du modèle d'univers statique, le monde scientifique admet que l'univers a eu un commencement et que par une énorme explosion, l'univers a émané d'un seul point il y a quelques 15 milliards d'années à partir du néant. On sait aujourd'hui que les dimensions de l'espace et du temps aussi sont apparus suite à cette explosion. Allah nous a indiqué ce fait dans le Coran il y a 14 siècles. Créateur des cieux et de la terre, à partir du néant. Un autre secret découvert par les recherches scientifiques de notre époque est que l'univers s'étend constamment. L'univers en expansion. C'était le physicien russe Alexander Friedman et le cosmologiste belge Georges Lemaître, qui ont proposé cette idée d'expansion pour la première fois au début du XXe siècle. Ils ont calculé théoriquement que l'univers est en mouvement permanent et qu'il s'étend. On a confirmé ce mouvement par l'utilisation de données observationnelles en 1929. Edwin Hubble, ce monsieur, en observant le ciel avec un télescope, Edwin Hubble, un astronome américain, a fait une découverte. Les étoiles et les galaxies s'éloignaient. Un univers où toutes les choses s'éloignent constamment les unes des autres signifie un univers en expansion constante. Vous pouvez réfléchir sur les courbes en univers comme des points à la surface d'un ballon en train de gonfler. Plus vous gonflez le ballon, plus des points à sa surface s'éloignent les uns des autres. Et les courbes s'éloignent aussi les uns des autres au fur et à mesure que l'univers s'étend. Pourtant, Allah énonce clairement que l'univers est en expansion dans ses versets. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Allah nous informe également sur la forme de la terre aussi, le fait qu'elle soit sphérique. Allah nous indique ceci dans le Coran. Je demande la protection d'Allah, constatant le béni. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Ici, le mot arabe, qui est traduit par « enrouler » et « yukabir ». Le sens de ce mot en français est « enrouler une chose autour d'une autre chose ronde ». Cette information donnée dans le verset contient des données précises sur la forme du monde, alors qu'on pensait que le monde était plat à cette époque-là, mais Allah a annoncé que la terre était ronde. Je voudrais parler d'un autre graphe du Coran sur les orbites dans l'univers, les orbites et l'univers en rotation. Comme vous savez, il existe plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers. Et chaque petite galaxie contient approximativement 1 milliard d'étoiles. De plus, chaque grande galaxie en contient plus d'un trillion. Beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes, et un grand nombre de ces planètes possèdent des satellites. Tous ces corps célestes suivent des chemins et des orbites très finement calculés depuis des millions d'années. Les étoiles, les planètes et les satellites tournent tous autour de leur propre axe. En plus, ils tournent avec le système dont ils font partie. On peut dire que l'univers fonctionne suivant un ordre, tout comme les rouages d'une machine. En outre, le mouvement des corps célestes dans leur orbite est basé sur un réglage très fin. Par exemple, écoutez cette vidéo.
En effectuant sa rotation autour du Soleil, la Terre suit une orbite bien précise, de manière à ce que tous les 30 km environ, elle ne dévie que de 2,8 mm. L'orbite que suit la Terre ne change jamais, car même une déviation de 3 mm seulement provoquerait des désastres. Si la déviation était de 2,5 mm au lieu de 2,8 mm, alors son orbite serait plus élevée et nous serions tous gelés. Si la déviation était de 3,1 mm, on brûlerait.
Oui, avant 14 siècles, dans le Coran, par le ciel au roi, parfaitement tracé. Et dans un autre verset, et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Selon les calculs des astronomes, le soleil se déplace le long d'un chemin appelé l'apex solaire, dans le chemin de l'étoile Vega. Et Allah, de la même manière, ce qui est révélé dans le Coran, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Oui, je vais vous parler maintenant de quelques miracles concernant les mers. Premièrement, sur le fait que les mers ne se mélangent pas bien qu'elles se rencontrent. Au 7e siècle, comme vous savez, personne ne savait que ce qui se passait au profond de la mer. Et pourtant, le Coran contient des informations importantes sur la structure de la mer et même sur les profondeurs des océans. Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Les océanographes ont découvert ce fait très récemment. C'est la force physique appelée tension de surface qui empêche les eaux de mer voisines de se mélanger. Maintenant, je vais vous parler maintenant d'un autre miracle qui est très très intéressant, le fer miraculeux. Comme vous savez, dans le Coran, il y a une sourate Al-Hadid qui signifie le fer. Voici le 25e verset de la sourate Al-Hadid. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que les utilités pour les gens. Dans le verset, Allah nous dit concernant le fer, nous avons fait descendre. Le mot fait descendre en arabe, c'est anzana. Anzana signifie en arabe faire descendre physiquement du ciel, comme la pluie ou les rayons du soleil. Les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le fer présent dans notre monde est venu des étoiles géantes de l'espace. Parce que la température du soleil est inadéquate pour la formation du fer. Le fer ne peut être produit que dans les étoiles plus grosses que le soleil, où la température atteint quelques centaines de millions de degrés. Quand la quantité de fer excède un certain niveau dans une étoile, celle-ci ne peut plus s'en accommoder et elle finit par exploser en ce qu'on appelle une nova ou supernova. Ces explosions permettre la dispersion du fer dans l'espace. En d'autres mots, le fer a été descendu sur Terre comme l'apprend le verset. Oui, maintenant je vais parler sur la pluie. On estime qu'en une seconde, approximativement 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent de la Terre. Ce chiffre s'élève à 505 trillions de tonnes d'eau en une année, et cette quantité est identique chaque année. Par conséquent, l'eau circule constamment selon un cycle équilibré, selon une mesure. Et cette mesure, déterminée seulement grâce aux moyens de technologie moderne, a été révélée miraculeusement dans le Coran. Et je vous donne une chita en régime. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure, et avec laquelle nous réanimons une cité morte, ainsi vous serez ressuscité. La création à partir de l'argile, maintenant, comme vous savez, Allah nous dit dans le Coran qu'il a créé le corps humain de l'argile. Cette information aussi est un miracle scientifique du Coran. Les scientifiques ont récemment découvert que les tissus vivants contiennent 26 éléments différents. Le carbone, 6 d'entre eux sont les plus communs. On sait le carbone, nitrogène, azote, phosphore, soufre, l'oxygène aussi. Ces éléments fondamentaux représentent 95% de la composition de ces tissus. Vous allez dire, quel est le rapport? Ces briques de base composant le corps humain sont également présentes dans le sol. Masha'Allah. Le premier être humain fut créé par Allah en façonnant de l'argile sous une forme humaine et en lui insufflant une âme. Cet événement miraculeux est décrit ainsi dans le Coran, et je vous donne un chiffre dans le régime. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosterne. Et dans un autre verset, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Oui, on va parler maintenant de la religion responsable de nos mouvements. Des recherches menées ces dernières années ont révélé que la zone préfrontale situé dans la partie avant de notre crâne, est responsable de la planification, de la motivation, du déclenchement des comportements bons et honteux, ainsi que du fait de dire des mensonges ou la vérité. Un livre intitulé « L'essentiel de l'anatomie et de la physiologie » indique la chose suivante.
En relation avec son implication dans la motivation, on pense que la zone préfrontale est aussi le centre fonctionnel pour les agressions.
Cette information a été découverte ces 60 dernières années. Regardons maintenant l'information similaire dans le Coran. Je demande la protection d'Allah, son certain le banni. Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes, par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. L'expression « le toupet d'un menteur, d'un pécheur » dans ce verset est assez remarquable, Inch'Allah. Cela démontre un parallèle proche des activités menées dans la partie frontale du cerveau. Un autre sujet. Et comme vous savez, grâce à la biologie moderne, nous savons que le processus de la reproduction commence avec 250 millions de spermatozoïdes qui sont émis en même temps par l'homme. Les spermatozoïdes entreprennent alors un voyage difficile pour atteindre l'ovule de la femme Lors du voyage, presque tous les spermes meurent. Seulement 1250 millions de spermes réussiront à l'atteindre. Donc, et seulement un seul sperme arrive à entrer dans l'ovule. En d'autres termes, l'essence de l'homme n'est pas le résultat d'une semence complète, mais seulement d'une petite partie de celle-ci. Et aussi très intéressant, jusqu'à une époque assez récente, on pensait que le sexe d'un bébé était déterminé par les cellules de la mère. Mais, et c'est pourquoi, dans le passé, les femmes étaient blâmées quand elles donnaient naissance à des filles. Mais Allah nous informe qu'on suit dans le Coran, et qu'il a créé le couple, le mâle et la femelle, à partir d'une goutte de semence éjaculée. Dans ce verset, je veux souligner l'expression, j'ai déjà souligné, une goutte de semence. Ici, dans ce verset, Allah précise clairement que le sexe est déterminé par une goutte de semence, c'est-à-dire que c'est le père qui est responsable de la détermination du sexe et non la mère. Alors, examinons ce fait avec l'aide de la biologie moderne. Quand le spermatozoïde de l'homme s'unit avec l'ovule de la femme, l'essence du bébé en est formée. Et cette cellule unique est appelée zygote. Elle commencera immédiatement à se reproduire en se divisant et elle deviendra finalement un morceau de chair appelé embryon. Ce morceau de chair ne passe pas sa période de développement dans le vide, mais dans l'utérus de la mère. Il s'accroche à la paroi de l'utérus comme des racines fermement fixées à la terre. Par ce lien, le zygote obtient du corps de la mère des substances essentielles à son développement. En fait, ce processus est expliqué d'une manière parfaite et miraculeuse dans le Saint Coran. Je vais lire le verset à ce sujet. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé toutes choses, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. Ici, je veux souligner le mot alak, adhérence. En arabe, c'est alak. Le mot arabe en arabe a deux sens. Le premier est quelque chose qui s'accroche quelque part. Et le deuxième sens est la sanction. La sanction, comme vous savez, c'est un parasite qui s'accroche à un corps pour sucer son sang. C'est évidemment le meilleur mot possible pour décrire l'action du zygote, s'accrochant à la paroi de l'utérus et absorbant sa subsistance. Et cela prouve encore une fois que le Coran, a été révélé par Allah, Seigneur des mondes. Et dans la période suivante, l'embryon grandit et se transforme en un bébé dans l'utérus. Jusqu'à très récemment, les embryologistes supposaient que les os et les muscles de l'embryon se développaient en même temps. Mais contrairement à la croyance répandue, Allah a révélé ce verset dans le Saint-Coran. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Dans ce verset, Allah nous explique les étapes. La première étape, c'est la création du système. Ensuite, après, Allah transforme le système en une adhérence, un morceau de chair. Ensuite, Allah crée les os à partir de cette adhérence. Et après, il remet les os de chair. Regardons la vidéo. Il est clairement énoncé dans ce verset que dans l'utérus de la mère, les os se développent en premier, puis les muscles se forment et les recouvrent. Les étapes du développement de l'homme, comme décrit dans le Coran, sont en parfaite harmonie avec les découvertes de l'embryologie moderne. Voilà une citation de Kate Moore, qui est l'ancien président de l'Association canadienne des anatomistes.
La forme du squelette détermine l'apparence générale de l'embryon au cours de l'étape de formation des os à la 7e semaine. Les muscles ne se développent pas au même moment, mais leur développement commence peu de temps après. Les muscles prennent position autour des os dans tout le corps et par conséquent, ils les annihilent. Ainsi, les muscles prennent leur forme et leur structure bien connue. L'étape de l'habillage avec des muscles survient au cours de la 8e semaine.
Il précise le temps et il continue.
Il m'a été très agréable d'aider à clarifier les indications du Coran concernant le développement humain. Il est clair à mes yeux que ces indications doivent avoir été communiquées au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, par Dieu ou Allah, car la plupart de ses connaissances n'ont été découvertes que plusieurs siècles plus tard. Cela prouve à mes yeux que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dû être un messager de Dieu ou Allah.
Oui, après avoir découvert que ce fait scientifique avait déjà été annoncé dans le Coran, monsieur le professeur Kate Moore s'est converti à l'islam. Oui, mis à part les caractéristiques miraculeuses que nous avons passées en revue jusqu'ici, le Coran contient aussi ce que nous pouvons appeler les miracles mathématiques. Il y a beaucoup d'exemples de cet aspect fascinant du Coran. Si vous comptez certains éléments spécifiques, vous tomberez sur des résultats très significatifs. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, si vous comptez le mot punition dans le Coran, il est répété 117 fois. Quant au mot pardon, il est répété exactement le double, 234 fois. C'est très significatif parce que Allah ordonne aux croyants de pardonner plutôt que de punir. Le pardon est une des valeurs morales de base prônée par le Coran. Par exemple, le mot jour est répété 365 fois au singulier et au pluriel 30 fois. Et le mot moi, quant à lui, est répété 12 fois. Le mot dit, il apparaît 332 fois et nous arrivons exactement au même chiffre jusqu'au mot contamination, les mots ils disent. D'autres. Le mot monde et l'au-delà sont répétés exactement le même nombre de fois, c'est-à-dire 115 fois. Le mot Satan et ange, 88 fois. Les mots paradis et enfer sont répétés chacun 67 fois. Le mot zekat est bien fait aussi, 32 fois. Les mots chaleur, 10 fois, 5 fois. Les mots richesse et pauvreté sont avec une proportion. Le mot richesse est répété 26 fois. Le mot pauvreté est répété 13 fois. Le mot homme et femme sont répétés un nombre égal de fois, 23 fois. Et comme vous le savez, c'est en même temps le nombre des chromosomes de l'œuf et du spermatozoïde dans la formation de l'embryon humain. Le nombre total de chromosomes humains est de 46, 23 provenant de la mère et 23 du père. Et finalement, je voudrais vous parler du nombre de répétitions des mots mère et terre. Le mot terre appelle 13 fois dans le Coran. Et le mot mère, 32 fois. Et à première vue, cela ne semble pas très significatif, mais si on fait le total, 45, et si on fait un rapport 13 divisé par 45, et 32 divisé par 45, ça fait deux nombres, 28,828 et 71,11. Est-ce que ces chiffres vous rappellent quelque chose? Oui. La surface de la Terre est constituée à 29% par des continents et à 71% par des océans. Conclusion. Les vérités scientifiques que nous avons exposées jusqu'ici sont des preuves évidentes, révélées par Allah dans le Coran il y a à peu près 1400 années. Allah avertit ceux qui doutent encore que le Coran est une révélation divine, malgré ses preuves manifestes. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à nos serviteurs, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Si vous ne parvenez pas, et à coup sûr, vous ne parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront des hommes et les pierres, lequel est réservé aux incréants. Oui, chers amis, chers invités, nous ne devons jamais oublier que nous allons tous mourir à la fin. C'est sûr. Le Coran, nous devons rappeler que le Coran est le livre divin qui va nous guider et c'est une miséricorde pour les croyants. Notre prophète a conseillé aux croyants dans un hadith. Tenez-vous fermement au Coran et prenez-le comme guide, car ces paroles d'Allah, ils viennent de lui et c'est vers lui qui vous guide. Merci de m'avoir écouté. Parce qu'en général, on fait en anglais et c'est la première fois que je fais en français. Merci.